Nous rappellerons ce matin une parole qui est sortie de la bouche d'un personnage bien connu de chacun, puisqu'il s'agit de Jean-Baptiste. Cela fait 400 ans que le Seigneur n'est plus intervenu par l'intermédiaire d'un prophète parmi son peuple Israël, depuis le prophète Malachie. Et donc, après ce long silence, cette longue période de silence, Jean-Baptiste arrive, Jean-Baptiste intervient, Jean-Baptiste rentre en scène. C'est lui qui sera le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Auparavant, un autre prophète avait annoncé sa venue. Il s'agit du prophète Ésaïe et on trouve ça dans le chapitre 40, verset 3 à 5. Sa naissance fut un miracle. Il est né, en effet, de parents qui étaient âgés et qui n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Son père, Zacharie, était un prêtre lévitique. Adulte, le Nouveau Testament, tout comme pour Jésus par ailleurs, ne parle pas de son enfance ni de sa jeunesse. Sauf pour Jésus, bon, on mentionne un peu son adolescence. Adulte, Jean-Baptiste vivait dans le désert de Judée, sur un territoire aride qui s'étendait donc de Jérusalem jusqu'au Jourdain. Alors, il était vêtu d'un vêtement, comme nous le savons bien, qui était conçu à partir de poils de chameau, de peau de chameau. Il était aussi serré à la taille par une ceinture et il portait des sandales Sparte. Les Sartes, c'est autre chose. Alors, c'était l'habit des prophètes, finalement. Son régime alimentaire, lui aussi, était tout simple, puisqu'il était constitué de sauterelles séchées, que consomment encore par ailleurs certaines peuplades de nos jours. Et c'était l'aliment des pauvres qui était permis aussi dans la liste des aliments mentionnés dans le Lévitique au chapitre 11. Il consommait aussi du miel sauvage qu'il trouvait en abondance dans les fentes, dans les cavités des rochers de cette région. Et sa vie ascète a fait penser à plusieurs qu'il faisait partie de ce troisième parti minoritaire qu'on trouvait, parti religieux qu'on trouvait chez les Juifs, après les pharisiens et les sadducéens, le parti des Esséniens, connu notamment parce que c'était à eux qu'appartenaient les célèbres manuscrits de la Mer Morte qu'on a découverts vers 1947 ou 48 dans une grotte dans la localité de Qumran. Alors, le message de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, était axé sur la repentance afin de préparer les cœurs de ses concitoyens à l'arrivée, à la venue, à accueillir dignement le Messie. On va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 22. Jean, chapitre 3, à partir du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeura avec eux et il baptisait. Jésus aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. On y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Et Jean répondit « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. » Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Et enfin, le verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est particulièrement sur ce verset 30 que j'aimerais attirer notre attention ce matin. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Alors à partir de ce verset, à partir de cette affirmation, j'aimerais brièvement développer deux points. Le premier point, tout d'abord, c'est qu'est-ce que cette affirmation « il faut qu'il croisse et que je diminue » signifiait, représentait pour Jean-Baptiste. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que cette affirmation, cette déclaration de Jean-Baptiste représente, signifie pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Qu'est-ce que cela signifiait tout d'abord pour Jean? Eh bien, jusque-là, Jean-Baptiste était sous les feux des projecteurs. Il exerçait un ministère public d'envergure. Et dans Matthieu, chapitre 5, versets 5 et 6, il relatait ceci, le concernant, bien sûr, Matthieu 5, versets 5 à 6. « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. » Jean-Baptiste, donc, drainait des foules et sa popularité était telle que beaucoup, même parmi ses disciples, croyait qu'il était le Messie, envoyé par Dieu. Cependant, Jean a toujours été clair par rapport à sa position devant le Messie. À plusieurs reprises, Jean va reconnaître la supériorité du Messie Jésus. Et on le voit notamment en Jean 3, verset 28, que nous avons lu, lorsqu'il dit ceci, « Vous êtes témoin, vous-même, j'ai toujours dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé comme précurseur pour préparer sa venue. » Et en Matthieu chapitre 3 verset 11, nous lisons toujours des propos tenus par Jean-Baptiste. « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient, Jésus, est plus fort et plus grand et plus puissant que moi. » Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Donc il n'y a pas d'équivoque. Jean-Baptiste reconnaît avec humilité qu'il n'est qu'un précurseur et que le Messie à venir, c'est Jésus. Et plus loin, au verset 14, quand Jésus s'approchera de Jean pour recevoir le baptême, eh bien Jean-Baptiste lui répondra, « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Jean-Baptiste savait qu'il n'était qu'une voix qui criait dans le désert, mais qu'il devait tôt ou tard céder la place à une voix bien plus puissante que la sienne, bien plus influente que la sienne, bien plus forte que la sienne. La voix de la parole incarnée, la voix du Verbe incarné. Il savait que dès que Jésus apparaîtrait au devant de la scène, son œuvre, son ministère allait s'estomper pour laisser la place à l'œuvre et au ministère de Jésus. Et c'est ce qui lui fera dire au verset 30 que nous avons lu, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. En d'autres termes, je vais m'effacer, je vais m'éteindre comme la flamme d'une bougie en bout de course, en fin de vie. Je vais diminuer mon action, je vais diminuer mon rayonnement, parce que Jésus, lui, va augmenter le sien. Parce que Jésus, lui, va, son ministère, son influence, vont croître toujours davantage, de plus en plus. C'est lui le sauveur du monde. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Et voilà la raison pour laquelle Jean clame ses propos, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le message qu'il veut transmettre à ses contemporains, à ceux qui l'écoutent. Eh bien, cela nous amène au deuxième point. Qu'est-ce que cette expression signifie pour moi, chrétien, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment est-ce que je pourrais interpréter ou tirer une application pratique de ce verset-là pour ma vie personnelle? Eh bien, dans notre vie, nous devons aussi apprendre à laisser la place, à laisser toute la place à Jésus. Dans chaque domaine de notre vie, nous sommes appelés à apprendre à laisser toute la place à Jésus. Et ce n'est pas toujours facile, bien évidemment. Pourquoi? Eh bien, parce que la chair, ou le vieil homme, si vous préférez, notre vieille nature, cet être qui est en nous et qui est séduit, qui est attiré et qui est dominé par le péché, eh bien, elle a des prétentions. Elle veut s'exprimer. Elle veut prendre les rênes de nos vies. Cependant, nous sommes appelés à laisser Christ vivre en nous. C'est un principe que le Baptiste souligne au verset 30, que nous avons lu, mais c'est un principe aussi que l'apôtre Paul aime à rappeler dans plusieurs de ses épîtres. Ainsi, en Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10, nous lisons « Ne mentez pas les uns aux autres. » Colossiens 3, verset 9 à 11. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Se dépouiller du moi pour se revêtir et renouveler constamment l'homme nouveau. Alors on peut poursuivre la lecture un peu plus loin. Il n'y a ici, poursuit Paul donc, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, etc. Et c'est ça, revêtir le Christ. Dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul va encore plus loin lorsqu'il déclare « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est merveilleux. C'est étonnant, c'est surprenant que de lire ça. Pour moi, ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui parle, c'est lui qui pense, c'est lui qui agit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, il faut que je croisse, qu'il croisse, Jésus, et que je diminue. Voilà ce vers quoi nous devrions tendre. Il faut que sa gloire croisse et que mon orgueil diminue. Il faut que la bienveillance, la bonté, la générosité de Jésus augmentent en moi et que mon égocentrisme diminue. Il faut que la charité, que l'amour de Christ grandisse en moi et que ma haine, mes ressentiments ce que j'éprouve à l'égard des uns et des autres, parfois malheureusement, eh bien diminue. Il faut que sa débonnaireté croisse et que ma jalousie diminue. Et parfois je peux être jaloux de l'un ou de l'autre, de ce qu'il possède, ou bien de sa position sociale. Eh bien, il faut que cette jalousie diminue au profit de la débonnaireté de Jésus qui vit en moi. Il faut que sa joie et sa paix règnent dans mon cœur, dans ma vie, et que l'amertume que je ressens parfois diminue. Il faut que les ambitions de Christ augmentent et que mes propres ambitions diminuent. Il faut que son caractère augmente et que mon mauvais caractère, les mauvais traits de caractère qui me caractérisent, qui m'identifient, diminuent. Il faut que sa justice augmente et que tout ce qui n'est pas équitable en moi diminue. Il faut que ses perfections croissent et que mes imperfections diminuent. Il faut que le fruit de l'esprit abonde et que les œuvres de la chair qui caractérisent mon moi diminuent. Il faut que sa volonté croisse et que ma propre volonté diminue. Il faut que sa pureté augmente et que mon impureté diminue. Ce qui vient de moi, mon ego, ma chair, le vieil homme, doit ou devrait en tout cas disparaître pour que les valeurs, les qualités, la beauté de Jésus resplendissent dans ma vie, à travers ma vie, en moi. Dieu a ce plan bien précis pour chacune de nos vies. Ça prendra le temps qu'il faudra. Vous savez, la croissance est souvent longue et lente, mais en définitive, ce que Dieu a comme plan pour chacun d'entre nous, c'est qu'il croisse et que moi, je diminue. Alors la condition toutefois pour que Christ grandisse en moi, eh bien c'est que, pour reprendre l'expression qui est familière à l'apôtre Paul, je sois en lui et que lui soit en moi. Donc la condition pour que Jésus puisse croître en moi, c'est que je sois en lui et que lui soit en moi. Romains 8, verset 1. L'apôtre souligne cette expression une fois encore, lorsqu'il écrit, « Il n'y a donc maintenant, on connaît bien ce verset, hein, « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Et un petit peu plus loin, donc en 2 Corinthiens, dans une autre épître, chapitre 5, verset 17, l'apôtre écrit, « Si quelqu'un et en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ signifie, en d'autres termes, être attaché, soudé, uni à lui, pour former un seul corps, 1 Corinthiens 12, pour former une seule et même plante, Romains 6, verset 5, pour former un seul et même plan de vigne, Jean 15, pour former un seul et même édifice spirituel dont Jésus est la pierre d'angle, la pierre de soutien, la pierre principale. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 7. Et si nous sommes en Christ, alors cela implique également que Christ est en nous. Romains 8, verset 10. Si Christ est en vous, le corps est vrai, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit, avec un grand E, est vie à cause de la justice. Et puis en Romains 8, verset 9, c'est un verset aussi qui est fort connu, hein, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Vous en Christ, Christ en vous. Moi en Christ, Christ en moi. Marc, donc Christ en, pardon, vous en Christ, marque notre position nouvelle, notre nouveau statut d'enfant, de fils, d'héritier, de fille, donc de ressuscité, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et Christ en nous concerne la présence et donc la présence de Jésus en nous et ce qu'il accomplit dans chacune de nos vies. Pour que Jésus croisse en moi, il faut donc qu'il y ait cette rencontre interactive. Je viens à toi, tu viens à moi. Rendu possible par la conversion, par la nouvelle naissance, par la repentance. Quand l'apôtre affirme que nous sommes en Christ et que Christ est en nous, il n'utilise pas une figure de style quelconque ou bien un style poétique quelconque. Il veut véritablement souligner que Jésus habite littéralement et pratiquement dans la vie du chrétien. C'est un mystère. Est-ce une réalité ? C'est un mystère, mais c'est une réalité aussi. Et cela devrait se voir. Voit-on Jésus en moi ? Les gens ne peuvent plus voir Jésus. À l'époque de Jésus, il y a des Grecs qui sont venus à Jérusalem pour le rencontrer. Et ils ont pu dire, nous voulons voir Jésus. Mais les gens aujourd'hui aussi veulent voir Jésus. Et comment peuvent-ils voir Jésus si ce n'est à travers moi ? Si ce n'est à travers chacun d'entre nous. Mais est-ce qu'on voit Jésus dans nos vies ? Voit-on Jésus dans nos vies ? Le voit-on œuvrer en nous ? Posons-nous honnêtement cette question. Qu'est-ce qui, dans nos vies, a diminué comme mauvais trait de caractère ? Et qu'est-ce qui a augmenté comme valeur, comme vertu de Jésus dans ma vie ? Dans quelle mesure est-ce que Christ a augmenté en moi et que mon moi a diminué ? Depuis que je suis devenu chrétien, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a diminué du moi et qu'est-ce qui a augmenté du Christ en moi ? Son amour à la place de mon indifférence, de paroles d'encouragement, de bénédiction à la place de paroles de mépris. Sa patience, sa tempérance à la place de mon tempérament volcanique. À quel stade la croissance de Jésus est-elle arrivé dans ma vie. C'est vrai qu'il est des choses qu'il est difficile de changer en nous. C'est difficile de changer parfois certains traits de caractère qui nous sont intrinsèques. C'est comme le dit la parole de Dieu, un léopard, il ne s'est pas enlevé ses taches. Un Éthiopien ne s'est pas changé la couleur de sa peau. C'est difficile parfois de se soustraire à son mauvais caractère, à ses défauts. Et ce, malgré toute la bonne volonté qu'on veut afficher, malgré toute la discipline personnelle dont on peut faire preuve, malgré notre esprit bien disposé, on n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Mais est-ce qu'il faut baisser les bras pour autant ? C'est comme cette femme qui est vite vexée, qui est susceptible, qui s'irrite parce qu'on lui fait une petite remarque ou bien parce qu'on plaisante un peu trop. Ou bien cet homme qui s'emporte à chaque fois qu'on s'adresse à lui et qu'on le contrarie. Je peux rien y faire, c'est mon caractère, je suis comme ça. On a déjà entendu ce genre de réflexion. Hein. C'est comme ça, c'est mon caractère. Et pourtant, Dieu veut changer notre caractère. Dieu veut transformer notre tempérament pour que nous puissions toujours davantage reproduire en nous le caractère de Jésus-Christ. Ce qu'il veut, c'est que Jésus croisse en nous et que je diminue. jusqu'à ce que, écrit l'apôtre Paul, jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Même si on sait que la pleine réalisation de ce plan de Dieu pour ma vie ne sera atteinte que lorsque j'aurai revêtu mon corps glorifié. Mais nous sommes dans un processus de croissance. Christ en nous est appelé à grandir, est appelé à croître. Et pour bien montrer toute la difficulté qu'il y a pour les Galates, ce verset que je viens de mentionner, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, est tiré du livre des Galates. Dans ce verset, on voit que l'apôtre Paul prie avec l'intensité d'une femme qui éprouve les douleurs de l'enfantement. Pour montrer ô combien l'apôtre Paul sait que c'est difficile pour le chrétien d'être confronté à la chair, au vieil homme, à la vieille nature. Il sait que c'est une lutte, que c'est un combat qui est acharné. Et si nous voulons marcher dans la victoire, si nous voulons marcher dans la victoire pour que le Christ s'épanouisse en nous, eh bien, nous avons besoin d'un miracle. Et ce miracle, c'est le miracle de l'Esprit. Et pour pouvoir bénéficier de cette puissance surnaturelle, pour pouvoir bénéficier de cette force spirituelle surnaturelle, eh bien, j'ai besoin d'entretenir, de nourrir mon nouvel homme, le nouvel homme, l'homme nouveau, afin qu'il croisse et que je diminue. Si je néglige, on termine. Je te regarde, mais je regarde. Si je néglige, Priscilla. Si je néglige la dimension de la prière, la louange, l'adoration, la contemplation, si je néglige la lecture de la parole de Dieu, si je néglige la méditation et la réflexion de la parole de Dieu, eh bien, alors malheureusement, mon égocentrisme, la chair, dominera et dirigera ma vie. Et l'Esprit Saint, attristé, éteint, ne pourra pas agir. Et le diable sait très bien. Le diable sait très bien que si nous avons cette relation, cette communion intime avec le Seigneur, nous pouvons marcher dans la victoire. Il sait très bien que c'est par ce biais-là que je vais laisser le Christ grandir, croître en moi. C'est pourquoi il va tout mettre en œuvre pour tenter de nous détourner de ces précieux moments de communion que nous pouvons avoir avec Dieu. Et il y arrive bien souvent, malheureusement. Il essaie de nous détourner de ces moments à travers lesquels nous pouvons puiser la force surnaturelle induite par l'Esprit Saint, afin de pouvoir lutter efficacement contre les œuvres de la chair, contre ma vieille nature, et afin de pouvoir laisser grandir le Christ en moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le message de l'apôtre Paul, c'est le message de Jean-Baptiste. C'est le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Mais la question reste la suivante. Est-ce que je veux rentrer moi aussi dans ce plan? Est-ce que je souhaite vraiment que ce plan se réalise dans ma vie pour que Dieu soit pleinement glorifié à travers moi et que Jésus puisse transparaître à travers ma vie ?